Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panel du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, et animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast, disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission, culture-prohibée.blogspot.com. Au sommaire aujourd'hui, une émission spéciale classique. J'avoue, j'ai un peu triché. Parce qu'il y a des films dont je voulais causer, que j'ai un peu mis au forceps dans l'émission. Alors, on va d'abord parler de véritables classiques. Hein, un film de 1923 de Wallace Worsley, Notre-Dame de Paris, sorti chez Rimini Éditions. Deux autres classiques d'un cinéaste classique que l'on redécouvre aujourd'hui en fait, hein, grâce à Artus Film, un cinéaste qui s'appelle František Vlachil. Et là, je vais vous parler de deux films, La Colombe Blanche de 1960 et Le Piège du Diable de 1962. On ira faire un tour du côté de la collection Fritz Lang chez Rimini Éditions, qui propose des superbes éditions des films de Fritz Lang en version remasterisée. Et là, on parlera de Les Bourreaux meurent aussi, un film de 1943. Deux films ensuite qui sont des véritables classiques du péplum, deux films de Pietro Franceschi disponibles chez Artus Film, Les Travaux d'Hercule de 1958 et Hercule et la Reine de Lydie en 1959. Et puis, alors un film qui peut être considéré quand même aujourd'hui hein, comme un classique des années 2000, hein, c'est Requiem for a Dream de Darren Aronofsky. Ça s'est sorti chez Bubble Pop. Et enfin, un film qui, nous l'espérons, deviendra un classique. C'est là que je suis un peu allé au forceps, quand même encore plus fort qu'avec le Darren Aronofsky. C'est le film de Claude Barras, Sauvage, film d'animation, Sauvage au pluriel, qui est sorti chez Blackout. Et je voulais absolument en parler. Et comme on n'avait pas trop de cases d'animation qui se libéraient, ben, on a décidé d'un commun accord avec le reste de la rédaction de le mettre là, dans cette émission. Voilà. L'équipe de Culture Prohibée remercie Sandrine Hiver, Rania Griffette, Kevin Boissezon, Stéphane Chevalier, Thierry Lopez, Timothée Tricard, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. À mes côtés, pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimère Tech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Après avoir fait l'éloge de la rapidité, on va faire l'éloge de la lenteur maintenant avec Thomas Roland, dit le loup-garou picard, qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de sanglantes chroniques pour RCA et mange des mandarines pendant plusieurs heures à la suite. Bonjour Thomas.
Salut Damien, salut Gégé et salut à toutes.
Mon cher Damien, toi qui as grandi avec des comédies musicales chevillées au corps, je ne sais pas si tu as grandi avec celle-là hein, d'ailleurs, mais bon, Notre-Dame de Paris voyons Damien, Notre-Dame de Paris, c'est de ça dont nous allons parler. Bon bien évidemment on est loin de la moindre comédie musicale, là on est en 1923, c'est Wallace Worsley qui réalise et c'est surtout avec Lon Chaney Senior, l'acteur mythique qui incarne là donc Quasimodo pour cette version de 1923 éditée par Rimini Éditions, donc il nous fait voyager dans le temps et redécouvrir cette version dans une copie époustouflante.
Là, avec un film muet, ça va être compliqué de chanter, mais heureusement, avec les cartons, bah, ça nous permet de poser une ambiance. Là, on sait qu'on est sous Louis XI. On va s'intéresser à différentes choses qui changent, notamment bah, Déjà, en regardant ce film, je me suis remis à écouter les musiques de Notre-Dame, pas en même temps, sinon ça aurait été très bizarre. Mais il y a des choses qui sont assez surprenantes. Par exemple, le fait qu'on ait un bossu aigri et qui méprise les gens, ça, c'était assez amusant. Bon, je dirais pas qu'il les méprise, mais il les aime pas beaucoup. D'ailleurs, contrairement à la version que vous connaissez sans doute, ben, il est pas caché. C'est-à-dire que les habitants savent que le bossu existe vraiment. Il descend de temps en temps pour les pointer du doigt. Autre chose qui change, c'est Clopin, notre roi des jutants exubérant, qui ne l'est plus cette fois. Aussi parce que le film est en noir et blanc, du coup, il manque un peu de couleur. Mais il y a beaucoup de personnages en fait que je redécouvre dans une version sans doute plus proche du bouquin, parce que je ne l'ai pas lu en entier en tout cas. Il y a des plans qui sont très très beaux, notamment les plans de Notre-Dame sont appréciables. Il y a un plan avec des squelettes dans la nuit qui est génial, à un moment il court avec du feu. Il y a plein de petits plans comme ça qui sortent au fur et à mesure. Alors, il faut quand même être prêt, hein, parce que c'est un film des années 20. Il fait 2 heures, si c'est pas votre genre, écartez-vous. Par contre, si vous voulez redécouvrir l'histoire de Notre-Dame de Paris, celui-ci, il est vraiment assez exceptionnel. Il y a une tension entre les personnages qui est très intéressante. Dès le départ, on voit en fait entre qui et qui ça va se jouer, quel personnage va être avec qui. Notamment, il y a un personnage d'une femme qui a perdu sa fille, qui était très jeune et qui se lamente depuis. Esmeralda qui ignore un peu qui sont ses parents. On sent qu'il y a des regroupements qui vont être faits et au fur et à mesure, l'histoire va avancer. Et c'est vrai que tu l'as dit, Jérôme, Lon Chaney, il joue un Quasimodo, un homme quasiment formé, assez brut, assez effrayant, qui au fur et à mesure en fait devient petit à petit humain, alors que d'autres personnages autour de lui deviennent au fur et à mesure inhumains.
Je crois qu'il est important de signaler que c'est, pour moi, elle fait partie des 3 meilleures adaptations. Alors le livre, je l'ai lu il y a fort longtemps, mon cher Damien, et j'avoue que ça a plutôt été une torture, hein, parce que c'est interminable, description des éléments, des portes, etc. J'avoue que c'est pas ce que je préfère chez Victor Hugo, Notre-Dame de Paris, je trouve que c'est une superbe adaptation, à l'image de celle aussi de William Dieterle avec Charles Laughton en bossu, et puis Maureen O'Hara en Esmeralda, et même celle de Jean Delannoy avec Anthony Quinn en bossu et Gina Lollobrigida en Esmeralda, pour moi, est assez marquante. Évidemment, là, l'intérêt principal du film, alors la mise en scène est très belle, hein, en plus, décor sublime et tout, mais c'est vraiment la prestation de Lon Chaney qui est vraiment impressionnant. Et qui, de toute façon, Lon Chaney, c'est une légende, hein, et qui emporte le film, vraiment, qui est un énorme film, hein. D'ailleurs, il y a beaucoup c'est une énorme production, c'est pas du tout un petit film, hein. Il y a beaucoup d'informations qui sont données dans les bonus, parce qu'il y a un journaliste qui a été dans le Starfix originel, qui s'appelle Albert Lévy, et qui revient, il est spécialiste de Victor Hugo, donc il revient sur énormément de... non seulement les adaptations de Victor Hugo, mais aussi sur les libertés qui ont été prises par rapport à l'original pour pouvoir l'adapter le plus efficacement possible au cinéma. Et il explique, Frédéric Albert Lévy, que justement, les changements apportés par les scénaristes auraient certainement été validés par Victor Hugo parce qu'ils rendent... ils rendent le récit plus efficace et plus cinégénique. Voilà, donc c'est bon, The Hunchback of Notre-Dame, donc le bossu de Notre-Dame. Et c'est donc Notre-Dame de Paris, là, qui devient Notre-Dame de Paris. Le titre français, c'est Notre-Dame de Paris. De Wallace Worsley, un film de 1923 qui est disponible donc, chez Rimini Édition dans un superbe master 2K. Voilà, et on vous le conseille vivement. On va maintenant aller, comment dire, s'égarer à l'Est. On va aller à la découverte d'un cinéaste. Enfin, moi, c'est un cinéaste que j'ai découvert grâce à Artus Film. Donc, je leur tire mon chapeau parce qu'ils ont décidé d'éditer, en tout cas, visiblement, tous ces films. Hein, parce qu'ils avaient déjà édité Marketa Lazarova et La Vallée des Abeilles, dont on avait parlé dans l'émission, qui sont 2 chefs-d'œuvre. Et là, ils sortent 2 nouveaux films de František Vlašil. Et La Colombe Blanche, un film de 1960, et Le Piège du Diable, un film de 62. La Colombe Blanche présentant la particularité d'être, en fait, le premier long métrage de František Vlašil.
Eh bien moi, j'ai découvert justement avec La Colombe Blanche et Le Piège du Diable, ce cinéaste tchèque. Et c'était effectivement une belle découverte. La Colombe Blanche relate l'histoire d'une jeune femme qui attend... le film commence par un lâcher de pigeons et de colombes en Belgique, de pigeons voyageurs, hein, je précise, qui doivent rejoindre quelque part une ville, quelque part dans la mer Baltique. Et une jeune femme attend, elle, sa colombe blanche. Mais la colombe blanche, elle s'égare. Elle s'égare en Tchécoslovaquie. Et c'est un jeune garçon qui la recueille parce qu'elle est blessée. Et puis, il va la soigner. Mais il n'est pas décidé à... il aimera bien la garder, cette colombe blanche, alors que un de ses voisins lui dit non, il faut quand même lui laisser vivre sa vie à cet oiseau. En fait, à partir de ce postulat très simple, le réalisateur, l'Afrantisek Vlatil, crée un film très poétique, très beau, esthétiquement. On est quelque part. C'est assez surréaliste, la façon dont il cadre, la lumière, la composition des éléments dans le cadre des personnages. C'est quand même très surréaliste de ce niveau-là. On reconnaît tout de suite que c'est un film de l'Est. Enfin, je ne sais pas, moi, c'est ce que ça m'évoque, quoi. C'est un film... On voit que c'est un film de cette époque, de l'Est, la façon dont c'est filmé. Et finalement, c'est un film très poétique, très humaniste, c'est très contemplatif. Et pourtant, le scénario est très simple. C'est pour un premier film, je trouve que c'est quand même une grande réussite. Ensuite, il y a Le Piège du Diable, qu'il réalise en 1962. Alors là, on est encore... Là, on n'est plus dans le surréalisme, on est plutôt dans une espèce de fantastique, un peu diffus. Les choses ne sont pas très, très clairement dites. Donc, il y a une histoire de moulin qui a été assiégé par des Suédois, mais ils y ont mis le feu. Un moulin qui est au milieu de la terre, en fait, l'eau est souterraine, la source est souterraine. Et le meunier et sa famille en sont ressortis vivants. On se demande bien comment cela se fait qu'il en soit sorti vivant. Et donc, à partir de là, il y a des rumeurs, une malédiction qui tourne autour de ce moulin. Et c'est un moulin où, justement, on dit qu'il ne gèle jamais. Alors, on imagine bien sûr que le diable est quelque part derrière cet état de fait. Et un homme d'église arrive dans ce village et décide de remuer un petit peu tout ça. Il va rentrer en conflit avec le nouveau meunier qui n'est pas vraiment super conformiste. Et là, esthétiquement, c'est assez différent. C'est très... le premier, La Colombe Blanche, très esthétique, très sophistiqué. Là, c'est un film plus d'époque. Donc, c'est vraiment différent au niveau des cadrages, au niveau de la lumière. On est vraiment dans un fantastique plus diffus, plein de non-dits, avec une fin plus ouverte, où il ne révèle vraiment jamais ce qui se passe, le fin mot de l'histoire. Il y a un personnage à un moment qui disparaît dans le film, on ne sait pas où, comment, pourquoi. C'est un film très étrange, en tout cas que je recommande autant que La Colombe Blanche.
Donc on retrouve chez cet éditeur Artus Film là qui sort ces deux films, donc là La Colombe Blanche et Le Piège du Diable, on retrouve une volonté de nous faire découvrir ces cinémas. Donc il faut soutenir ces initiatives, il faut acheter ces films. À titre personnel, moi je préfère Le Piège du Diable, où on sent effectivement un côté presque onirique par son montage, de côté un film presque onirique, très étrange, et il nous amène en fait évidemment qu'il y a derrière tout ça, on sait la situation tchèque de l'époque, et tchécoslovaque d'ailleurs, lapsus révélateur, et la métaphore régnant maître. On ne peut pas non plus dire tout ce qu'on veut dire, donc on le dit d'une autre manière, d'une manière détournée, donc c'est assez impressionnant. Et puis c'est plein d'idées de mise en scène. Enfin, je veux dire, par moments, là, on a l'impression que la caméra vole, un peu comme dans ce qu'on verra plus tard dans les Evil Dead, tout ça. Enfin, c'est assez impressionnant. Ça fait planer une ambiance un peu diffuse comme ça, un peu sourde. Effectivement, c'est nimbé de fantastique sans être vraiment fantastique. C'est vraiment... il n'y a pas beaucoup de musique, tout ça. Enfin, c'est un... Il y a même, en tout cas dans La Colombe Blanche, pas beaucoup de dialogue. C'est vraiment, tout passe par la mise en scène. Donc je ne suis pas étonné, mon cher Thomas, que ces deux films te plaisent beaucoup. Ces deux films de František Vlasil, disponibles chez Artus Film. Vous écoutez Culture Prohibée. On va maintenant rester du côté de Prague. C'est marrant, hein, c'est une transition toute trouvée. Mais dans une Prague occupée par les nazis. Et on va aller chez Fritz Lang. Alors, c'est Fritz Lang, mais qui est aux États-Unis, hein, quand il fait ce film. Pour Les bourreaux meurent aussi, Hangmen Also Die, qui s'inspire d'une histoire vraie, c'est-à-dire la mort d'Heydrich, le grand protecteur de l'Allemagne nazie, qui est présenté d'ailleurs dans le film comme... de manière infecte. Alors c'est rigolo cette propension qu'ont les personnes, à l'extrême droite, à dire 3 ou 4 fois la même chose pour appuyer leur message. C'est valable dans la vie politique réelle, comme dans tous les autres films de cinéma. Moi je me rappelle dans Tarantino quand Hitler fait 9, 9, 9. Voilà, c'est une scène qui m'a marqué. Bon, revenons à nos moutons. Quand Fritz Lang fait le film, on est dans la foulée de l'assassinat d'Heydrich, qui est en fait un assassinat. Alors, on en apprend plus dans les bonus. Il y a Nicolas Télope qui remet tout ça dans son contexte et qui nous explique, dans une très bonne présentation du film, que effectivement, c'est un assassinat qui a été ordonné par la résistance à Londres, qui a envoyé en fait des Tchécoslovaques parachutistes pour tuer. Pour tuer Heydrich et qui se sont retrouvés coincés là-bas. Bon, ça va finir mal pour eux d'ailleurs dans la vraie histoire. Là, dans le film, Fritz Lang, lui, il sait pas tout ça en fait. Au moment où il fait le film, il sait juste que Heydrich a été assassiné et donc il élabore avec ses scénaristes, c'est pas n'importe qui, parce qu'il y a Bertolt Brecht derrière, il y a John Wexley, tout. Un paquet de gens que la commission McCarthy va pas aimer du tout. Hein. Donc ils élaborent un scénario un peu rocambolesque qui fait la part belle à la résistance, à l'histoire d'un peuple uni et qui va couvrir l'assassin pour lui permettre d'échapper au pire et voire même qui va se venger sur les traîtres à la résistance sur un agent infiltré qui va être accusé du pire. D'ailleurs, il faut savoir, c'est ça qui est extraordinaire quand même, c'est là qu'on voit en 43 l'époque particulière que c'était. On espère que ça ne va pas se reproduire dans les années à venir, mais la censure, en fait, à l'époque, elle veut empêcher le film de sortir uniquement parce que c'est à cause d'un mensonge. Tout le monde ment en fait au sujet d'un agent double. Tout le monde ment à son sujet pour le faire accuser. Et donc la censure américaine dit mais c'est pas loyal, on peut pas. C'est pas lui qui a fait le crime, donc on peut pas accuser ce personnage. Donc le film peut pas sortir. Et moi je trouve ça assez dément. Alors qu'on voit plein d'autres choses dans le film tout à fait répréhensibles, mais là c'est quelque chose qui passe pas. Bon mon cher Thomas, toi je sais que tu es comme moi, tu aimes beaucoup Fritz Lang. Fritz Lang fait partie avec Houston, Hitchcock, des gens qui sont le cinéma, qui ont fait le cinéma, qui l'ont inventé, qui l'ont modernisé et tout ça. Enfin bref, et donc je sais que toi, ce film, Thomas, c'est un film qui t'a marqué.
De toute façon, les films de Fritz Lang sont des films marquants. Et là, effectivement, c'est une ode à la résistance. Hein, je trouve que la bonne idée du film, c'est de ne pas montrer l'assassinat d'Heydrich. Il présente le personnage d'Heydrich, et il y a une ellipse, et là, on tombe sur directement une séquence où les soldats allemands, ils cherchent dans les rues de Prague l'assassin d'Heydrich. Et c'est une mise en scène très très moderne parce qu'il n'y a pas de grande poursuite. Il n'y a pas de musique. En fait, c'est un personnage que l'on voit émerger comme ça, de sous des arcades, calmement, furtivement. Et on découvre que Heydrich a été assassiné et puis que cet homme est l'assassin d'Heydrich. Et tout le film est comme ça, en fait. Tout le film refuse le spectaculaire. Il y a quelque chose de très âpre. Le film est très âpre. Alors bien sûr, on retrouve l'esthétisme expressionniste de Fritz Lang, et aussi c'est un film qui expose un peu un cas de conscience. Alors cet homme, il a assassiné Heydrich, et bien sûr, ce que font les nazis, c'est des représailles en faisant prisonnier une grande partie de la population et en les exécutant petit à petit jusqu'à ce que l'assassin se dénonce. Alors, est-ce que l'assassin doit se dénoncer ou pas ? Pourquoi devrait-il le faire ? Pourquoi ne devrait-il pas le faire ? Parce qu'on découvre aussi que l'assassin, en fait, bah, c'est un médecin. Là, il y a aussi toute l'ambivalence du propos de Fritz Lang, hein, sur est-ce qu'on doit sauver... est-ce que je dois me dénoncer pour sauver la population alors que je peux encore être utile dans le cadre de la résistance ? En étant médecin, il est aussi utile. Donc il y a tout ce côté sur la culpabilité, hein, qui est un thème qui traverse une bonne partie de la filmographie de Fritz Lang. Et c'est un film, c'est à la fois, il y a un petit côté angélique, hein, la façon dont il dépeint la résistance tchèque à Prague à l'époque, alors que ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Il y a aussi un côté... très noir, parce que comme tu me l'as fait remarquer un jour, on ne sait pas ce que deviennent les otages, en fait, à la fin du film. Donc il y a ce côté-là. Et donc tout cet esthétisme aussi très expressionniste, avec une image très sombre parfois. Ce personnage de Brasseur, finalement, bon, on ne va pas le pleurer parce que c'est un salaud, quoi. C'est un collabo, quoi.
Ouais, mais il faut croire que ça n'a pas plu à la censure américaine. Alors, il y a aussi ce personnage joué par Anali, ce personnage, qui a toute une histoire aussi. Ce docteur en fuite assassin, donc, il va se réfugier à un moment, puisqu'il y a un couvre-feu. Donc, il va se réfugier dans une famille, celle du professeur Novotny. Le professeur Novotny, qui est un éminent professeur, mais qui est surtout un type humble, d'une grande humilité, mais qui en vérité est un résistant, en vérité, un homme de l'ombre, mais qui cache ses activités et qui va faire partie des otages. Et en fait, la police soupçonne Novotny d'être l'auteur ou quelqu'un proche de Novotny, puisque le type va aller se planquer chez eux, il va y avoir des langues qui vont se délier. On voit bien, ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on voit bien, il y a deux choses frappantes, complètement langiennes dans le film. C'est que, alors certes, il y a une sorte de vision un peu idéalisée de ce qu'est un peuple en lutte et en résistance. C'est un peu l'histoire de De Gaulle qui dit à la Libération, il y avait que des résistants en France. C'est un peu la même chose. Là, on a l'impression que c'est un peuple de résistants, tous autant qu'ils sont. Tout le monde se serre les coudes, personne donne personne. Enfin bon, bref. Sauf ce personnage d'Anali, qui à un moment, elle dit « Mon père va être pris, mon père va être exécuté, c'est dégueulasse, je connais le vrai coupable, je vais le donner. » Et elle se rend à la Gestapo, ça ne se passe pas comme prévu. Et pourtant, c'est un personnage attachant, hein, ce personnage. Hein. Et ça, c'est hyper intéressant. Et il y a des moments, ça, c'est typiquement Languien. Il y a un autre moment typiquement Languien aussi, c'est quand... ce qui est Languien, c'est comment il décrit, en fait. Parce qu'ils ne sont pas au courant de la vraie histoire, mais Lang, il sait ce que c'est que de vivre dans l'Allemagne d'Hitler. Il sait ce que c'est. Donc, il décrit vraiment ce qu'est la vie dans un pays aux mains de l'extrême droite, du fascisme. Et on voit vraiment que les flics se comportent d'une certaine manière, que une discussion anodine peut devenir quelque chose qui va vous conduire à l'échafaud. Enfin, on voit tout cela dans le film, c'est en filigrane, et puis surtout, et là, c'est là que c'est un moment purement languien et qui échappe au reste du côté un peu angélique du film sur le comportement du peuple. C'est à un moment que l'héroïne veut se rendre à la guest... Enfin, l'héroïne, si c'est l'héroïne, c'est le personnage féminin principal du film, d'ailleurs. Plus que le docteur, c'est elle le personnage principal. Et elle veut se rendre à la Gestapo donc pour le dénoncer. Et il y a son cocher. Enfin, elle est livrée à la vindicte de la foule. Et on voit le comportement de la foule. Et c'est furie, quoi. C'est Fritz Lang. On voit, on est tout près du lynchage. Alors qu'en fait, personne ne sait vraiment ce qu'elle veut faire. On sait juste qu'elle veut aller à la Gestapo. Voilà. Donc, mais rien que le fait d'aller à la Gestapo, de toute façon, c'est soit on est convoqué, soit on va dénoncer. Donc voilà. Et il y a un début de pré-lynchage qui est assez impressionnant. Et puis, il y a cette fin. Là, on peut voir la version, la version longue, hein, la version qui fait plus de 2 heures, qui est la vraie version, en fait, parce que la version de 2h15 qu'on voit, là, c'est la version, hein, c'est bien expliqué par dans les bonus aussi par Bernard et Scheinitz. Ils reprennent les bonus quand ils étaient sortis chez Carlotta. Là, le master est plus beau, hein, mais ils reprennent une partie des bonus. Qu'en fait, la version de langue a toujours fait 2h15 et que c'est un distributeur français qui l'avait raccourci parce que 2h15, c'était un poil trop long pour que ça tienne. Et en fait, il y a le final est encore plus ambigu parce que du coup, on voit qu'effectivement, on ne sait pas, parce qu'on a une fosse commune tout à coup, on ne sait pas si sur laquelle vont se recueillir les Tchèques et les Tchécoslovaques, et on ne sait pas en fait si les nazis ont arrêté de tuer des otages une fois qu'ils avaient eu leur assassin, parce qu'on voit que les nazis, sur ordre du Reich, n'hésitent pas à pervertir l'histoire, évidemment. Et puis, surtout, il y a le carton final où c'est marqué d'abord en premier « note », et après, « the end », avec un point d'interrogation. Ce qui rend le film toujours dans la même modernité aujourd'hui, parce que ce « not the end », vu que l'histoire a tendance à bégayer, on pourrait l'appliquer à la période actuelle, même si le contexte aujourd'hui est différent pour plein de raisons. Je veux dire, les forces en présence ont changé, tout ça, mais je veux dire, sur l'idée du fait de la persistance des idées d'extrême droite et qui sont là en temps de crise, c'est quelque chose d'assez prégnant dans le film. Et ça, je trouve que... Enfin, les bourreaux meurent aussi, comme disait Thomas. Bon, il y a quelques Fritz Lang mineurs, comme Casier judiciaire, tout ça. Enfin, quelques films qui sont d'ailleurs dans cette collection Fritz Lang aussi. On vous en parlera dans une autre émission, mais quand même, globalement, Fritz Lang, c'est quelque chose. C'est quand même l'un des plus grands cinéastes de tous les temps. Et les bourreaux meurent aussi, que ce soit dans sa version d'ailleurs amputée ou sa version longue. Hein. Version longue qui fait qu'on développe plus les personnages, mais et puis il y a ce carton final. Mais on retrouve quand même, effectivement, toute la richesse du cinéma de Fritz Lang dans ce film qui est... alors certes, plutôt un film de propagande contre les nazis, hein, puisqu'on s'embarrasse d'aucune vérité historique, mais qui est un film purement languien et un excellent film de Fritz Lang. Donc Les bourreaux meurent aussi, la collection Fritz Lang, Chéri Mini édition, on vous le conseille vivement. Écoutez Culture Prohibée spécial classique. je vais vous parler de deux films qui sortent chez Artus Film, deux films que j'aime beaucoup, deux films de Pietro Franceschi, Les Travaux d'Hercule et sa suite Hercule et la Reine de Lydie, deux films de Pietro Franceschi qu'on a souvent à tort attribué à Mario Bava parce qu'il en fait les effets spéciaux et la photographie. Alors on sait qu'il a rendu service pour faire gagner du temps. Il a filmé une partie des scènes. Enfin, ça reste vraiment des films de Pietro Franceschi. Enfin, de toute façon, la patte Bava, elle est là dans l'éclairage, elle est là sa griffe est là. Voilà, on va y revenir. Alors, c'est aussi deux films, parce qu'il ne faut pas oublier, aujourd'hui on l'oublie, hein, Steve Reeves a été, c'est un ex-monsieur univers, a été une grande star. Le cinéma italien faisait partie c'était une industrie qui régnait sur le cinéma mondial avec les Américains, avec d'autres, mais c'était vraiment une industrie énorme. On produisait à Cinecittà les grandes années, mais plus de 100 films sur une année, c'est quelque chose. Et Steve Reeves était une star internationale. Ces deux films, Les Travaux d'Hercule et Hercule et la Reine de Lydie, ont connu un retentissement international phénoménal. Sont sortis aux États-Unis, ça a tellement fonctionné qu'on a même fait un comics avec. Et d'ailleurs, même Stanley dira que pas Jack Kirby, mais Stanley expliquera que son Hercule en comics, il est inspiré de Steve Reeves et des films de Franceschi qui ont été d'énormes succès à l'époque. Alors, pour le premier, Les Travaux d'Hercule, on est dans la Grèce antique. Hercule de Thèbes, donc, est sur le chemin de la cité Iolcos. Il sauve la vie de Iole, ravissante fille de son roi Pélias. Il y est attendu afin d'assurer l'éducation d'Iphitos, le frère de Iole. Alors, il faut savoir que, alors, ça, c'est les dangers du numérique. C'est-à-dire que la copie présentée par Artus est tellement belle qu'on voit clairement que Iole, qui manque de se foutre à la baille en n'arrivant pas à gérer sa carriole avec ses chevaux, on voit très bien que c'est un mec trois fois plus baraqué que moi, à qui ils ont mis une perruque blonde et une jupette pour faire croire que c'était l'actrice. Là, ça se voit bien. Bon. Mais on va passer ce moment-là. On voit clairement qu'on est face à du grand cinéma populaire. Il va sauver la belle Iole, Silvia Cosina, la très belle Silvia Cosina, qu'on retrouvera d'ailleurs aussi dans le film suivant. Et Hercule, c'est le mojo, quoi. Voilà, Hercule, il va être obligé, en fait, à faire de périlleux travaux, et y compris aider Jason, le fameux Jason, qui va chercher la toison d'or, ou Jason, on dit comme on veut. Hein. Ah, il ne porte pas de masque de hockey. Hein. Et il va aider Jason et les Argonautes à aller trouver la toison d'or. Et à leur retour, Hercule et Jason découvrent une ville menacée par un terrible péril. Alors, dans le premier, il va aider Jason. Dans le deuxième, il va faire ça avec Ulysse. Parce qu'en fait, Ennio de Concini, le scénariste, qui est un scénariste qui est un très, très grand, très, très grand scénariste italien, hein, il a l'idée de mélanger les différentes mythologies afin de dynamiser ses films. Ce qui donne des films très, très fun et plein de péripéties. D'ailleurs, il y a tellement de péripéties, en fait, que... il y a que deux des 12 travaux en fait dans ce film. Hein. D'ailleurs, ça s'appelle Les Travaux d'Hercule et non pas Les 12 Travaux d'Hercule, puisque dedans on va retrouver la lutte contre le lion de Némée et contre le taureau de Crète. C'est tout ce qu'on va retrouver en termes de travaux. Il y a des moments extraordinaires. Hein. Il y a la rencontre avec les Amazones. Elle est incarnée par Gianna Maria Canale. Qui a été une vraie vedette italienne, qui a été la femme de Riccardo Freda, qui est alors au summum de sa beauté, parce que bon, les femmes sont belles, hein, ça fait partie du délire. Les hommes sont beaux et musclés, les femmes sont belles, sculpturales. Et c'est vrai que sa quête de la toison d'or, elle vaut quand même son pesant de cacahuètes, si j'ose le dire ainsi. Les images sont magnifiques, les couleurs sont chatoyantes. Il y a vraiment la patte Mario Bava. On sent que le film est d'une ampleur incroyable. Steve Reeves s'impose immédiatement parce que c'est le meilleur, en fait, de tous les acteurs culturistes qu'il y avait à l'époque. Il y a eu Kirk Morris, enfin, il y en a eu d'autres, il y a eu Gordon Scott, il y a eu Richard Harrison, hein, il y a eu Alan Steele, il y en a eu plein d'anciens, Monsieur Mus. Mais lui, c'est le meilleur. Il est quand même un peu acteur, il n'est pas mauvais comme acteur. D'ailleurs, avant de faire ce film-là, il a une vraie carrière d'acteur. Il essaye vraiment de se reconvertir dans le métier d'acteur. Et il s'impose comme un véritable héros. Alors bien sûr, on mélange les mythologies grecques et romaines. Alors je sais que ça va faire tiquer mon ami Damien qui est présent dans ce studio, mais ça, il en résulte des films d'une efficacité folle. Un Steve Reeves, et puis comment un Steve Reeves au sommet de son talent, de sa beauté plastique. Derrière, il va faire les films de Corbucci, Romulus et Rémus, l'excellent Romulus et Rémus et Le Fils de Spartacus sont deux très bons péplums, pour ceux qui, comme moi, aiment les péplums, et en particulier les péplums à l'italienne. Et, alors, et puis, en plus de Silva Cosina, il y a toutes les plus belles actrices de l'époque. Et dans des seconds rôles, il y a Lydia Alfonsi, il y a Gina Rovere. Moi, un petit crunch pour Luciana Paluzzi, voilà. Enfin, il y a vraiment c'est vraiment des films qui appartiennent à une époque qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Enfin, voilà, c'est des films d'une plasticité extraordinaire, d'une beauté incroyable. Alors, dans les bonus, il y a un entretien avec Willy Colombini. Alors, sur les deux films, hein, il y a un entretien avec Willy Colombini. Alors, Willy Colombini, c'est celui qui incarne un des deux Gémeaux. Il y a Castor et Pollux aussi dans la série de films, là. Et il raconte plein de choses qui sont assez rigolotes. Puis après, il va y avoir la suite. Moi, la suite, je fais partie des gens qui la préfèrent. Hercule et la Reine de Lydie, qui est de 59, qui sort là aussi chez Artus, film toujours de Franceschi. Ou alors là, il y a un petit peu de l'Odyssée avec Ulysse, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, on est dans la Grèce antique. Le jeune Ulysse est accompagné de son épouse Iole, donc Silva Cosina, qu'on retrouve. Hein. Hercule fait halte à Colone, car Œdipe le prix de régler la rivalité qui oppose ses fils Éthéocle et Polynice, souverains rivaux de Thèbes. Ouais, parce que Hercule, il est pote aussi avec Œdipe. Hein. Ah, c'est du blasphème hein, pour Damien. Mais nous, on prend notre pied quand on regarde les films, ça ne nous gêne pas. Mais Hercule boit à la source de l'oubli et devient prisonnier d'Omphale. Alors, Omphale, c'est un super personnage. C'est un personnage de sorcière là, qui sent le soufre, un côté capiteux. C'est très érotique ces scènes, alors, dans la limite de ce qu'on pouvait faire voir en 59, hein, mais c'est très étonnant, voilà, c'est très italien, on va dire comme ça, avec la superbe photo de Bava, toujours, donc le fait d'avoir bu à la source de l'oubli fait qu'il devient prisonnier d'Omphale, la cruelle reine de Lydie, et c'est Ulysse et les Argonautes qui viennent à son secours pour l'aider à délivrer Thèbes de la tyrannie. Et ça va, mais alors, bastonné, mais sévère. Moi, je vous dis que ça. Donc, moi, je trouve que le film, j'aime plus celui-là parce qu'il a une ambiance. C'est pour ça que souvent, on a dit qu'il était réalisé par Mario Bava, je pense. Il a une ambiance beaucoup plus macabre. Alors, on sait qu'il a travaillé dessus, hein, parce qu'il a pu faire son premier long-métrage, Mario Bava, parce que, justement, il avait rendu service sur ces deux films-là. Et c'est les producteurs qui lui ont dit, effectivement, tu as été très utile, tu nous as permis de finir les films dans les temps, donc tu vas pouvoir faire ton propre film. Et il fera Le Masque du Démon, et il aura la carrière que l'on sait. Et le film a un côté gothique, presque des côtés Hammer Film, ou gothique à la Mario Bava, hein, avec ses couleurs là, très, très, très pétantes, ses rouges très agressifs, rouge carmin, là, qu'on retrouvera dans la filmographie de Bava. Et qui était aussi un maître du noir et blanc, mais un vrai maître de la couleur. Et donc, il y a cette beauté plastique, ce côté plus fantastique, plus macabre, dans le sens plus fantastique gothique. Il y a la maîtrise par Franceschi des plans larges, des plans en scope. C'est vraiment magnifique. Et il y a beaucoup de suspense. Et puis, il y a des scènes très, très belles. Moi, j'aime beaucoup cette reine Omphale, là, qui est un peu cette très sexy reine Omphale qui fait pétrifier ses amants. Ben, ça donne des scènes assez marquantes. Moi, j'aime toujours bien voir les Argonautes aussi. Ils m'éclatent bien, les Argonautes. Et je trouve que c'est, pour moi, je préfère le second volet. Mais bon, vous pouvez regarder les deux à la suite. Si vous êtes comme moi, vous allez prendre un pied pas possible. Moi, je suis très content qu'Artus nous ait sorti ces deux films dans ces copies-là. Donc, Les Travaux d'Hercule et Hercule et la Reine de Lydie de Pietro Franceschi avec un petit Mario Bava qui traîne derrière. Voilà. Et donc, je vous les conseille vivement. Si vous avez gardé votre âme d'enfant, regardez ces deux versions d'Hercule. Et puis, si vous n'aimez pas qu'on mélange les mythologies, eh bien, passez votre chemin, mon cher Damien. Hein, Damien, lui, il n'aime pas trop les trucs qui font rêver. Damien, il aime les trucs qui font cauchemarder. Hein, d'ailleurs, il va nous parler d'un film qui sort là chez Bubble Pop dans une très belle édition. Requiem for a Dream de Darren Aronofsky.
Vous écoutez Culture Prohibée.
Culte iconique, classique. Alors, Requiem for a Dream, il est dans mon top 3 des films traumatisants. Il y a deux Requiem dans ma liste de mes top 3 films traumatisants. C'est des films que je me suis promis de ne revoir que dans 15 voire 20 ans. Et là, Jérôme me dit, hé, viens, on en parle. Et je suis en mode, oh ouais, pourquoi pas. Dès les premières minutes, je me suis souvenu que c'est un film qui fait extrêmement mal. Et pour info, il est à la troisième position. Alors, c'est un art de me traumatiser. Je pensais que c'était impossible jusqu'à avoir vu Requiem pour un massacre, qui lui est en première position. J'adore le travail de Darren Aronofsky. Et le résultat de Requiem for a Dream, il est extrêmement impactant, mais ça passe par sa caméra, ça passe par son film, ça passe par tout ce qu'il fait dedans. Notamment déjà la colorimétrie qui est très particulière, limite surexposée. Enfin, il y a des points où il y a beaucoup de lumière. En fait, c'est plus des couleurs acides qu'il fait rejaillir, un peu comme des tableaux de la Renaissance qui est très particulier. Il y a son montage incroyablement dynamique, croisé, vacillant constamment entre rêve et cauchemar, qui arrive à connecter les gens, mais aussi à les isoler dans les espaces. Eux qui sont tous en quête de quelque chose, ils ont tous une obsession, ils ont tous une addiction qui varie d'un personnage à l'autre, tous tournés vers le succès, l'illusion qu'il peut atteindre, et finalement qui les fait tous tomber. Alors l'histoire est très importante, elle passe déjà par ses acteurs, qui est une liste assez remarquable. On a Ellen Burstyn qui joue la mère, on a Jared Leto qui va jouer le fils, et Jennifer Connelly qui va jouer la petite amie, Keith Davis qui a un petit rôle à la fin, et Malone Wayans qui joue son meilleur ami. En fait, l'histoire en soi, elle est très simple, mais chacun a leur propre histoire. La mère, en fait, est fan d'une émission de télé et rêve d'un jour y participer. Jared Leto, il se drogue et il a une idée de génie qui est que, ça se trouve, il peut avoir de la drogue, la revendre et devenir très riche. Jennifer Connelly, elle a un rêve qui est tourné, elle, vers la couture. Elle est liée à Jared Leto parce que les deux sont ensemble. Et Marlon Wayans, qui joue leur pote. Je sais pas s'il a vraiment d'objectifs dans la vie, mais lui, il va finir mal comme tous les autres. Alors, la fin est très marquante. Tous ceux qui l'ont vu la retiennent parce qu'elle marque la déchéance. Il y a un moment où on pense qu'ils vont tous s'en sortir, mais face à leur addiction, non. C'est pas un film pour tout le monde, hein. Faut faire attention à ça, sinon vous allez vous retrouver traumatisé comme moi. Mais c'est un film qui très vite expose... Darren montre rapidement ce dont il est capable, notamment avec la scène du début où justement la télé est volée pour être vendue et avoir de l'argent derrière. Il y a tous ces plans croisés avec les deux personnages qui se parlent. Il y a le moment où la mère commence à perdre la notion du temps, elle est chez le docteur, il y a cette caméra un peu accélérée avec ce gros plan pour montrer que finalement elle se trouve perdue dans l'espace. Il fait énormément de choses dans son film, ce qui lui donne un côté bizarrement harmonieux dans cette folie et cette dégéance qui submerge tout le monde. Et bien évidemment, le dernier point pour tous ceux qui n'ont pas vu le film et qui en fait un film culte, c'est la musique, que vous connaissez sans doute, même si vous n'avez jamais vu le film. Sa force, au final, c'est de vendre l'horreur à travers un rêve.
Moi, je vais citer Jacques Maurice de Télérama. Ah ouais, parce que ça m'arrive de citer Télérama. Et Jacques Maurice, il a écrit quelque chose, parce que moi, je trouve qu'il y a un personnage... Moi, j'ai de l'empathie pour un personnage dans ce film, qui est joué par Jennifer Connelly. Je la trouve sublime dans le film, je la trouve extraordinaire. Elle arrive à faire passer des choses avec juste des petites variations dans son jeu, dans le regard. Il écrit ça, Jacques Maurice. Il écrit « Pauvre Marion, Jennifer Connelly, dont les yeux invitent à se noyer ». Et je trouve que ça résume vraiment bien. Il a le sens de la formule. Critique pourtant impitoyable de Télérama, Jacques Maurice, qui aime bien ce film. Et ça fait partie des quelques films de Darren Aronofsky que j'aime bien. Parce que je dois avouer que c'est un réalisateur avec lequel je suis fâché depuis un bon moment. Et avec lequel j'ai perdu foi en lui assez vite, en fait. J'avais beaucoup aimé Pi, Requiem for a Dream, là, à la revoyure, je l'ai réévalué parce que je l'avais beaucoup aimé. Je trouve vraiment que c'est un film vraiment marquant. Et après, avec The Fountain, alors là, il m'a perdu. Alors là, j'ai trouvé ça imbuvable. The Wrestler et Black Swan, encore, ça va. C'est des films que j'aime bien. Et après, tout le reste, alors là, j'ai essayé, hein, pourtant. Hein. Que ce soit Noé, Mother, tout ça. Je trouve que c'est en poulet, que c'est trop. Et là, ça fonctionne. Alors, sans doute parce qu'il y a Hubert Selby qui fait le scénario avec lui, parce que c'est adapté d'Hubert Selby, qui joue dans le film, d'ailleurs. Hubert Selby, il fait un des matons de la tôle à la fin. Lui, il valide le film, hein, Selby. Hein, il trouve que c'est très fidèle à ses écrits, à son univers. Il y a dans ce film un usage... Alors, c'est une sorte d'ultra-cinéma, en fait. C'est-à-dire qu'on utilise à fond le montage parallèle, et le montage parallèle devient de plus en plus syncopé. Alors, dans l'édition Bubble Pop, là, on a des scènes qui ont été enlevées, où, en fait, il allait encore plus loin dans l'expérimentation, Aronofsky, parce qu'il faisait du split-screen, mais alors en version démultipliée qu'il a enlevée, à bon escient, d'ailleurs, je pense, parce que l'écran n'était plus divisé en 2, mais en 4, en 8, en 10, en 12, et ça devenait trop... Enfin, il était encore dans l'esprit de Pi, qui est quand même qui a un côté expérimental aussi, Pi qui est en noir et blanc, et qui a un côté vraiment expérimental. Là, on sentait vraiment qu'il était allé trop loin. Il a préféré se couper parce que le film va déjà assez loin. C'est vrai que le film est assez traumatisant. C'est une expérience. Alors, je pense que les gens qui aiment, par exemple, le cinéma de Gaspard Noé vont adorer ce film. On est vraiment, pour moi, dans une sorte de syncope, quelque chose qui est proche de la transe. Et quand je parle d'ultra-cinéma, c'est parce qu'on est vraiment dans ce que... au sujet du cinéma de Mario Bava, qu'on parle parfois d'ultra-cinéma. Mais couleurs, rythme syncopé, musique, on utilise tous les éléments de la mise en scène pour justement accentuer le propos. Alors, le film, là, est présent dans une copie 4K de malade avec un son 7.1 de dingue. C'est important de le dire quand même parce qu'il y a eu un gros travail. Requiem for a Dream, c'est ce film culte, hein, de 2000. Donc il est disponible chez Bubble Pop et c'est certainement, alors t'as pas fait le parallèle, mais c'est aussi la fin de l'American Dream, hein, puisque tous c'est des entrepreneurs dans leur genre. Hein. C'est-à-dire que l'autre c'est l'American Dream, la mère, parce qu'elle veut passer à la télé. Elle veut maigrir, l'American Dream, être belle, tout ça et tout. Et c'est une pauvre femme abandonnée toutes et tous, en fait. Et eux, ils veulent monter leur entreprise, ils veulent tous monter leur entreprise, alors que c'est des terribles losers, quoi. Voilà. Et oui, effectivement, il y a le personnage de Jennifer Connelly. On n'a pas le droit de faire autant souffrir Jennifer Connelly dans un film, je trouve. Voilà. Non, franchement, alors on vous le recommande vivement. Mais je pense que vous l'avez déjà vu, quand ceux qui vont acheter ce 4K, mais pas grave, faites-vous plaisir. Requiem for a Dream, et c'est disponible chez Bubble Pop. Et on va terminer par un film qui n'est pas considéré comme un classique, mais on espère qu'il va le devenir. Un film d'animation écolo, un film d'animation que Claude Barras a mis très longtemps à faire, hein, qui est sorti en 2024. Il est sorti 8 ans après Ma vie de courgette. Et donc ça s'appelle Sauvage au pluriel. C'est disponible chez Blackout.
Il a pris du temps et c'est normal, c'est parce que c'est un film d'animation dans l'esthétique stop motion. Donc généralement la stop motion ça prend un peu de temps. Ma vie de courgette, j'avais eu la chance de le découvrir en avant-première et l'avantage de cette avant-première c'est que j'étais dans une salle remplie d'enfants, c'est-à-dire qu'il y avait certes leurs parents mais surtout des enfants qui avaient entre 6 et 12 ans. Et Ma vie de courgette, si vous l'avez vu, la première chose que vous avez marqué ou qui vous a marqué en terminant ce film, vous avez dû vous dire c'est quand même chaud, on ne va pas montrer ça à des enfants. Et figurez-vous que dans la salle, les enfants ont adoré. Et je pense que c'est un truc qui marque la filmographie de Barras et qu'on retrouve dans Sauvage, c'est qu'il arrive parfaitement à toucher en fait le sentiment des enfants et comment ils se comportent. Alors, le scénario, il est moins grave que Ma vie de courgette, mais il est autre. En fait, ça se passe à Bornéo, à la lisière de la grande forêt tropicale, où on suit la jeune Keria qui recueille un bébé orang-outan trouvé dans la plantation de palmiers à huile où travaille son père. Au même moment, Selaï, son jeune cousin, vient trouver refuge chez eux, elle et son père, d'abord parce qu'il doit aller à l'école pour apprendre à lire et à écrire, et ensuite afin d'échapper au conflit qui oppose sa famille de nomades aux compagnies forestières qui essayent de raser la forêt pour planter plus d'arbres à palmes. Ensemble, Keria, Selaï et le bébé singe vont lutter contre la déforestation de cette forêt ancestrale qui est menacée, mais surtout, Keria, au fur et à mesure, elle va aussi avoir l'occasion de découvrir un peu son passé, et notamment, elle va remettre en question une histoire qu'on lui a racontée, c'est-à-dire que sa mère, est-ce qu'elle a vraiment été mangée par une panthère ? Alors, c'est un film, j'étais déjà très content de retrouver Claude Barras derrière la caméra. Comme je vous dis, il est doué pour exprimer les sentiments des enfants. Ça se voit à un moment où Keria et Selaï se disputent, où Keria lui dit « retourne dans ta jungle » et Selaï est en mode « moi je préfère être dans ma jungle ». Et la scène qu'on a, c'est juste, on reste sur Selaï qui est allongé par terre, qui se tourne pour dormir, et en fait il devient triste. Parce que même s'il a essayé de la vexer, au fond de lui-même, ça le rend triste. Tout ce qu'il fait. Le contexte, à nouveau, il n'est pas facile. Dans Ma vie de courgette, on parlait quand même d'orphelins et d'enfants qui avaient subi des violences. Là, on parle de déforestation, de parents qui abdiquent par peur ou qui vont jusqu'à travailler avec des sociétés qui détruisent l'avenir de leurs propres enfants. Donc, ça reste des sujets très doux, très durs dans lesquels ils arrivent à faire très bien communiquer les différents univers. C'est clairement un de mes films préférés de 2024, même si j'ai rattrapé en retard, mais vu que vous avez tous écouté notre spécial palmarès 2024, vous savez que j'ai raté mon année 2024. Sauvage, pour moi, c'est un film qui est beau, qui est doux, mais surtout qui est un super film, et je suis certain qu'il deviendra un classique.
C'est un vrai film politique, hein, très fort politiquement, en fait, et qui est aussi un coming of age, aussi. Il y a tout dans ce film, en fait. Il a mis longtemps à le faire, mais ça va. Du coup, il nous livre un excellent film qui est aussi bien pour les petits que pour les grands et qui permet de réfléchir à des sujets de société aussi importants que à la fois l'environnement, mais aussi son identité personnelle, son identité culturelle, son identité sexuelle. Il y a vraiment... C'est vraiment très très bon. Je conseille aussi un bonus avec, parce que c'est toujours chouette. Il y a le making of, on les voit travailler et tout dans d'immenses hangars, pas chauffés d'ailleurs parce qu'ils sont tous en doudoune, ils doivent se les geler. On voit le mec qui prépare, il fait une seconde de film, il fait 24 mouvements, tac tac tac, et il repart pour 20. C'est un travail titanesque. Sisyphe à côté, c'est un petit joueur quoi, voilà. Donc non, c'est vraiment une belle édition. C'est chez Blackout. Ça s'appelle Sauvage au pluriel. C'est signé Claude Barras et on va se quitter. Parce qu'il n'y a pas de raison qu'il n'y a que nous qui l'ayons dans la tête, avec le SOS de Daniel Balavoine qui conclut le film. Voilà. Et dans un dernier espoir disparaissent. Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Domé, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and The Last But Not The Least. Je veux bien sûr parler de Léomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.